Chapitre 30. Yuna enfile son manteau dans la cage d'escalier et sort dans le froid et l'obscurité. Un chat est occupé à renifler un tas de sacs poubelles et de vieilles canettes de bière. Un hélicoptère passe au loin. Une plaquette vide de tramadol a été jetée sur une armoire électrique. Yuna prend la rue perpendiculaire et voit deux hommes debout à côté de sa voiture. Il continue à descendre la rue. Quelqu'un a suivi le même chemin que lui, avec une bombe de peinture rouge à la main, traçant une ligne ondulée qui court sur la façade en briques, les fenêtres et les portes. Les deux hommes sont en train d'essayer d'ouvrir la portière avant à l'aide d'une fine lame métallique. Tout en s'approchant, Yuna glisse sa main gauche dans la poche de son manteau et saisit la clé électronique. « Vous avez besoin d'un coup de main, les gars ?» demande-t-il. « Quoi ?» rétorque le plus âgé des deux. Yuna lève la main droite et claque des doigts. Les phares de la voiture clignotent, les serrures s'ouvrent et les rétroviseurs latéraux se déploient.
« C'est quoi ce bordel ?»
marmonne le plus jeune.
« Yuska Quinkanit.
Courez comme des lapins !» sourit Yuna en montrant sa carte de police. Les hommes laissent tomber leurs outils, tournent les talons et s'enfuient. Au niveau d'une supérette, ils bifurquent vers l'herbe sombre et enjambent une petite clôture. Yuna fait le tour de la voiture, remarque une rayure sur le haut de la portière, l'ouvre, s'installe au volant et appelle Anna Gilbert de l'unité anti-prostitution. Après avoir fait un rapide compte-rendu de sa rencontre avec Tiffany, il lui parle de Lena O.
Oui, je sais qui c'est. On a entamé un dialogue avec elle. Elle s'appelle Olena Veronina. Elle vient d'Ukraine. Elle est devenue escort girl après l'invasion russe.
Tu penses qu'elle accepterait de me parler?
Il te faudra un interprète. Mais elle est vive. Elle est ingénieure civile de formation.
Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir avant de lui parler?
Non. Enfin, d'après ce que j'ai compris, elle ne veut pas qu'on lui rappelle ce qu'elle a laissé derrière elle. Elle envoie tout l'argent qu'elle gagne à sa famille, mais elle n'a plus de contact direct avec eux.
Tu peux me fixer un rendez-vous avec elle? Le plus vite possible.
Il est 9h05 quand Yuna arrive au café Electra, dans la zone industrielle de Västberga, au sud de Stockholm. Il commande un café et des tartines, puis s'assied à une table dans le local vide. Sur la nappe en papier est brodée « Joyeux Noël » en point de croix rouge. La nuit dernière, Yuna a été réveillée par un cauchemar, le cœur battant, les yeux pleins de larmes. Après s'être levé et lavé le visage, il a pris 20 mg de morphine, puis s'est recouché, aspiré par un calme artificiel et chaud. Ce matin, sa tête est lourde et il ressent une légère nausée. À travers la vitre, il reconnaît une interprète que la police emploie souvent pour les interrogatoires. Elle est en train de fumer de l'autre côté de la rue. Il ne se souvient plus de son nom, mais ils se sont déjà salués à plusieurs reprises. C'est une femme d'une soixantaine d'années, avec des grandes lunettes, un visage dur et des cheveux gris coupés courts. Il la voit tirer une dernière bouffée de sa cigarette, l'écraser sur le trottoir, sortir un paquet de chewing-gum de la poche supérieure de sa veste en jean, faire un signe à quelqu'un, puis traverser la rue. L'interprète entre accompagnée d'une femme d'environ 40 ans, sans maquillage, avec des yeux bleu clair et de longs cheveux blonds soigneusement brossés. Elle porte un pull bleu marine en maille, un pantalon noir et des bottes en cuir. Elle s'approche de la table. Yuna se lève, les salue et leur demande ce qu'elle souhaite boire ou manger. Les deux femmes s'asseyent pendant qu'il va chercher du café et des tartines. Il revient et dépose les tasses et les assiettes. L'interprète déplace la corbeille avec du ketchup et de la moutarde sur la table voisine, puis sort un carnet de notes et un stylo.
« Merci de prendre le temps de parler avec moi », dit Yuna à Olena.
L'interprète trace rapidement une ligne dans son carnet, puis traduit ses mots.
Olena répond. Je suis heureuse si je peux être utile.
Ils commencent à manger, puis après un moment, Yuna pose ce qu'il reste de sa tartine sur son assiette, boit une gorgée de café et regarde Olena avec bienveillance. Elle mange encore un peu, s'essuie la bouche avec une serviette en papier et soutient son regard.
Je me demandais, comment choisissez-vous vos clients ? Demande-t-il.
L'interprète traduit, écoute la réponse, puis restitue les mots, mais aussi le ton
Je reçois une demande, et si c'est un nouveau nom, je le vérifie sur différents forums avant d'engager une conversation, dit-elle.
Et vous discutez de quoi?
De ce qu'il recherche, des prix, des règles, surtout pour que je puisse me faire une idée, sentir si quelque chose m'alarme.
Vous gardez une trace de ces échanges?
Non, je promets évidemment la discrétion. C'est important, pour tout le monde.
Mais ce ne serait pas utile de garder quelques informations sur vos clients?
Comment ça?
Au moins leur nom, leur numéro, leur préférence, je ne sais pas.
Elle secoue la tête. Je ne fais pas ça.
Donc pas de dossier sur votre ordinateur? Pas de carnet? Rien sur papier?
Non, désolé.
Yuna hoche la tête, finit sa tartine et s'essuie la bouche.
Ok, Olena, je vais être direct.
On m'a dit que vous aviez un client régulier qui avait été agressé par une travailleuse du sexe.
Elle répond en ukrainien. L'interprète note, pose une brève question, reçoit une réponse, hoche la tête, puis s'adresse à Yuna.
Il est venu peut-être 8 fois en tout, mais il a sombré dans des troubles psychiques. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a environ 6 mois, il était impossible de discuter avec lui. Il pensait qu'un réseau criminel avait mis un contrat sur sa tête et il croyait que je collaborais avec eux.
Est-ce qu'il a parlé de l'agression?
Juste la première fois.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Pas grand-chose. Il a voulu fouiller mon appartement pour vérifier que personne ne s'y cachait. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a raconté l'agression. Il a dit qu'une prostituée l'avait attiré dans un piège, qu'elle ne ressemblait pas du tout aux photos sur l'annonce.
Il l'a décrite?
Non, il a juste dit qu'elle était laide et folle et qu'elle l'avait frappée au visage, dans le dos et entre les jambes avec une barre de fer.
Elle s'appelait comment?
Elle semble faire partie de ces femmes qui changent souvent de pseudonyme et de forum, mais il l'appelait Miss Liza, suivie d'une longue série de superlatifs raffinés.
Miss Liza?
Oui.
Vous savez autre chose à son sujet?
Non, désolé.
Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps, mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, pour de vrai?
Merci, mais je ne pense pas.
Je comprends ce que vous voulez dire.
Mais si je quittais tout ça, je trahirais ma famille.
Et je ne peux pas.
Sinon, tout ce que j'ai enduré n'aurait servi à rien,
dit-elle en croisant son regard avec des yeux brillants.